France Inter.
Bonsoir, dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, 1766, le chevalier de la Barre, 20 ans, condamné à mort pour blasphème et sacrilège. Plus de 250 ans après, cette affaire ne cesse de nous faire frémir, mais aussi de nous interroger. Le 1er juillet 1766 à Abbeville, après avoir été torturé, le chevalier de la Barre, âgé seulement de 20 ans, est conduit à l'échafaud sur la Grand Place, où il est décapité avant que son corps ne soit jeté au bûcher. Mais quels crimes horribles a-t-il commis pour mériter un tel châtiment ? Le chevalier de la Barre était reconnu coupable, je cite, « d'impiété, blasphème, sacrilège, exécrable et abominable », car il avait eu la mauvaise idée de ne pas ôter son chapeau lors d'une procession religieuse, d'avoir chanté une chanson impie et de posséder des livres jugés infâmes, parmi lesquels le dictionnaire philosophique de Voltaire. Devenu malgré lui le symbole de la lutte contre l'arbitraire judiciaire et le fanatisme religieux, le pauvre chevalier de la Barre ne sera réhabilité que sous la Révolution. Et il faudra attendre la Troisième République pour que les délits de blasphème, malgré les résistances, disparaissent du droit français.
France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire.
Éric Vinzel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien du droit et des institutions à Avignon Université. Alors pour l'historien du droit que vous êtes justement, Éric Vinzel, l'affaire du chevalier de la Barre, est-ce qu'elle est exemplaire de la justice française sous l'Ancien Régime ou bien est-ce qu'au contraire c'est une exception, une espèce de monstruosité en plein siècle des Lumières ?
Alors, on pourrait presque dire les deux. Je vais vous faire une réponse de Normand, et oui. Je m'en excuse. C'est une affaire qui, en termes de procès, c'est-à-dire dans la manière dont elle a été menée, est assez révélatrice de ce qui se fait à l'époque, en termes de procès pour poursuite de crimes. Mais c'est une exception parce que il ne faut pas oublier que la Barre est le dernier Français à avoir été condamné à mort pour crime sacrilège, et surtout pour blasphème en France.
Et pas le premier.
Ah bah pas le premier, puisque depuis le XVIe siècle, le crime de blasphème et le crime de sacrilège, ce sont deux crimes un petit peu différents, sont des cas royaux, c'est-à-dire qu'ils sont poursuivis par la justice du roi. Précédemment, au Moyen-Âge, ils étaient poursuivis par la justice d'Église.
Pouvez-vous nous définir, Éric Vinzel, le crime de blasphème et celui de sacrilège ?
Alors, le crime de blasphème, c'est un péché de la langue, c'est mal dire de Dieu, c'est se moquer de Dieu par des propos inappropriés, ou bien en utilisant le nom de Dieu mal à propos, un juron ou des choses comme ça, ou lors d'une insulte. Et le crime de sacrilège, c'est s'en prendre à quelque chose de sacré ou à une personne sacrée. Vous volez de l'argent dans un tronc d'église, c'est un vol sacrilège. Vous agressez un prêtre, c'est une agression sacrilège. Vous abîmez volontairement un objet sacré, comme c'est le cas dans l'affaire Labarre, une croix par exemple, que vous détériorez, eh bien c'est un crime sacrilège, une détérioration sacrilège, si l'on peut dire.
Pouvez-vous nous rappeler, Éric Vinzel, le contexte dans lequel cette affaire émerge ?
Alors, le contexte, il y a peut-être deux éléments importants à rappeler. D'abord, un contexte politique ou politico-religieux. On est sous le règne de Louis XV. On est dans sa deuxième période, c'est celle du mal-aimé. Hein, Louis XV est reconnu ou réputé pour avoir eu une première partie de règne positive. On disait le bien-aimé. Et puis, après 1750, il est le mal-aimé. Il y a eu l'affaire d'Amiens en 1757. Hein, il y a eu une tentative de régicide à son encontre. Et le roi Louis XV est dans une période un petit peu difficile, parce que dans les années 1760, il a eu affaire à une fronde des parlements, c'est-à-dire des hautes cours de justice de l'époque. Et puis en même temps, il y a eu l'expulsion des jésuites quelques années auparavant, les jésuites qui sont considérés comme étant un état dans l'état, obéissant plus au pape qu'au roi, et remettant en cause donc son absolutisme.
Donc on a une période de restauration, de volonté de restauration du pouvoir monarchique, et en même temps, il y a une offensive religieuse aussi contre les philosophes.
C'est ça. Alors, les philosophes, de ce point de vue-là, il y a peut-être deux éléments à rappeler qui sont vraiment importants par rapport à l'affaire Labarre, me semble-t-il. C'est d'abord la position de Voltaire, dont on sait qu'il va intervenir directement après l'affaire Labarre pour en faire une relation. Et puis Voltaire qui est intervenu dans la célèbre affaire Calas, qui s'est terminée la même année, 1765, où l'affaire Labarre est mise en accusation. Et puis, il y a également l'autre philosophe important, c'est le fameux Beccaria, qui a écrit en 1764, voilà, « Des délices et des peines », un ouvrage dont Voltaire a beaucoup fait la publicité et qui est une sorte de best-seller de l'époque, « Des délices et des peines », où Beccaria fait une critique assez virulente du système judiciaire tel qu'il se pratique dans la plupart des pays européens de l'époque, en tout cas de l'Europe continentale, et où il appelle à changer tout un tas de choses, mettre fin à la torture, mettre un avocat dans la procédure pénale parce qu'il n'y en avait pas, arrêter les violences judiciaires, les supplices, et puis que tout ça soit codifié, c'est-à-dire soit intégré dans un système législatif et non pas laissé à ce qu'on appelle l'arbitraire des juges, parce que les juges avaient un fort pouvoir de liberté qui leur était conféré de choisir des peines sans être restreint par un code pénal comme on l'a aujourd'hui.
Mais en face de ça, il y a aussi une offensive, une réaction peut-être religieuse face à, justement à ce cette effervescence philosophique ?
Non, pas tellement à l'époque, dans les années 1760. Il y a deux courants, en fait, dans l'Église, mais depuis très longtemps. Il y a un courant ultramontain, c'est-à-dire qu'on obéit avant tout au pape à Rome et pas à son roi. C'est un peu la dynamique des jésuites. Et puis, à côté de ça, on a un courant en France, dans l'Église, dans le clergé, qui est plutôt dit gallican, c'est-à-dire qui reconnaît que le clergé, c'est aussi un ensemble d'hommes et de femmes qui sont des sujets du roi, et le roi étant un roi absolu, on lui doit obéissance, et le roi a le droit de contrôler l'Église et le clergé présents sur son sol, c'est-à-dire dans le royaume de France.
Éric Vinzel, merci. Je vous propose qu'on poursuive cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, 1766, le chevalier de Labarre, 20 ans, condamné à mort pour blasphème et sacrilège, un texte de Pierre Lorimy, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire, réalisation Baptiste Guiton.
Il pleut, mais ils sont tous venus au spectacle, massés le long du parcours jusqu'à la grande place. Ce qui me fait le plus de peine, c'est de voir aux fenêtres tant de gens que je croyais mes amis. Je lis la haine dans leurs regards. On crache à mon passage. Mais je dois rester digne, ne montrer aucune faiblesse. Ces écriteaux sur ma poitrine et dans mon dos, impies, blasphémateurs et sacrilèges exécrables et abominables. Abominable, moi ? J'ai l'impression d'une farce, d'un sinistre carnaval. Et bientôt, ma brève existence finira sur le bio. Je ne savais pas qu'on pût faire mourir un gentilhomme pour si peu de choses.
1er juillet 1766. François-Jean Lefebvre, chevalier de la Barre, est mené à l'échafaud dans les rues d'Abbeville avant d'avoir la tête coupée et le corps jeté au bûcher devant une foule immense. Il a à peine 20 ans. C'est l'épilogue tragique d'un long calvaire pour ce jeune noble devenu un paria. Pourtant, 3 ans plus tôt, tout semblait sourire à cet orphelin de père. Sa vie alors avait pris un nouveau tournant. Il était recueilli par une riche cousine, Anne-Marguerite Fédot de Broux, qui, à Abbeville, dirige l'abbaye cistercienne de Villancourt. Cette femme a décidé de parfaire l'éducation de gentilhomme du garçon de 17 ans. Cours de danse, de violon, d'escrime. Avec d'autres fils de bonne famille, ils forment à Abbeville une bande insouciante, fêtarde et rêvent d'une carrière d'officier du roi. Les divertissements étant rares dans la très pieuse cité picarde, ils se retrouvent dans une taverne où, comme ce soir de décembre 1764, à la salle de billard, François-Jean y termine une partie avec l'un de ses amis, Gaillard d'Étalonde.
Oh, magnifique carambolage, chevalier.
Eh, ma foi, elles me plaisent bien, ces nouvelles tables de billard, là, sans arsenicille. Regarde-moi la bille rouge avec sa fesse rebondie.
Eh, c'est ma nouvelle amie, je Allez. Dors avec ce soir.
Pousse-toi.
À toi. Oh. Presque à la poche, sur les phallus d'un pouce.
Ma queue est maudite.
Maudite, maudite, moi je trouve que tu l'as bien en main ce soir.
À la queue, le
Il fourre le curé du bois,
mesdames. Bon, allez, on se refait une partie.
Non.
Allez.
Non, je te dis.
Laisse la garde, chevalier.
Pas du tout. Ça fait deux cadrans qu'on joue. J'ai mal à la tête. J'ai chaud. J'ai trop bu. Sortons.
Ah, de l'air frais.
Allez, François, viens. On va rejoindre Duméniel, Moignon, Pierrot et les autres.
Non. Demain, tôt, je file à la librairie de la Veuve de Vérité. Je vais récupérer deux ouvrages bien salés. Histoire du portier des Chartreux et la tourière des Carmélites. On y lutte une secte.
La bête à deux dos dans un couvent, je veux voir.
Je les lis et je te les passe. Tu pourras les faire circuler dans la bande.
Et ton abbesse, elle est au courant ?
Elle m'encouragerait presque.
La lecture ouvre les esprits.
Ça me déplaît pas, moi, de lire des livres cochons à deux pas du dortoir des bonnes sœurs.
Elles ne sont pas rancunières. Je te revois mardi gras, habillée en fille, déboulant dans le confessionnal.
La panique.
La marade. Allez, viens, les autres nous attendent.
Non. Écoute, les talons. Va arracher des sonnettes, casser des carreaux pour effrayer le bourgeois. Si ça te chante, moi, je rentre.
Eh bien, le preux chevalier serait-il là? Trop de libertinage? T'étais pas le dernier à sabrer le champagne tantôt, mousquetaire.
Écoute, il est tard.
C'est la lune noire qui t'embrume l'esprit.
À demain, gaillard de B2.
Le jeune chevalier de la Barre est hébergé dans un bâtiment, un peu à l'écart de l'abbaye, pour respecter les conventions. Sa cousine et protectrice, Anne-Marguerite Feydeau, la quarantaine élégante, est plus une femme du monde qu'une stricte religieuse. Elle aime recevoir lors de dîners mondains où l'on parle art et philosophie, où l'on joue de la musique. Sa frivolité dérange dans la très catholique Abbeville, mais la dame est respectée. Elle est noble et l'alliée de puissants parlementaires parisiens. François Jean et ses amis sont souvent invités lors des soirées de l'abbaye.
Que vous m'avez fait rire, toi et tes camarades, hier soir. Mes invités étaient d'un ennui confondant. Répète-moi ce que tu as dit au marchand de filatures.
L'esprit est tout le contraire de l'argent. Moins on en a, plus on est satisfait.
Mais où vas-tu chercher ça?
Chez Monsieur de Voltaire. J'aime son sens de la répartie.
Avec toi, je revis mes 20 ans que j'ai perdus au cloître.
Puis-je vous poser une question personnelle, ma tante?
J'aime quand tu m'appelles comme cela, François. Je t'écoute.
Vous êtes belle, élégante, fortunée. Vous aviez des prétendants. Pourquoi ne vous êtes-vous pas mariée?
Tu vois, je trouve plus de plaisir à philosopher qu'à convoler. Vivre avec un vieux barbon, trop peu pour moi.
J'ai bien vu que le seigneur de Belleval vous faisait des avances.
Oh, celui-là. Il se sentait trop à son aise chez moi et colportait des cancans. J'y ai mis fin, il l'a mal pris. Tant pis.
Je me disais bien qu'on ne le voyait plus. J'ai cru que c'était parce qu'une fois je l'avais rabroué. Et le maire du Val-de-Soicourt, il ne vient jamais.
C'est de notoriété publique qu'il ne m'apprécie guère. Tu sais, cette abbaye est autant enviée que détestée. Elle fait peut-être des jaloux même. L'important pour moi est qu'on y discute des avancées de notre temps. Substituer le savoir à l'ignorance, le dialogue à l'intolérance, et même le mérite à la naissance. Rousseau, Voltaire, Diderot et d'Alembert, leurs idées neuves font souffler un vent de liberté.
Alors pourquoi faut-il se cacher pour les lire?
Tu apprendras vite que dans notre monde, il y a un large fossé entre la vérité et ses apparences. Un conseil, mon neveu chéri. Cultive ces lectures avec plus de discrétion. Dans cette ville, on n'aime pas ceux qui sortent des sentiers de la religion.
Les sentiers de la religion. Ma chère cousine, je vous adore, mais aujourd'hui, qui peut croire encore que ce rond de pâte molle à la communion soit le corps du Christ et le mauvais vin de messe son sang? Fadaise pour cul béni. Ma seule religion, ce sont les femmes. L'amour des femmes. Ma seule église, leur petit temple secret. Derrière leur exquise manière, je sens en elles une force. Et parmi toutes celles que j'ai croisées depuis mon arrivée ici, il y a Juliette, Juliette du Corroy. un pur joyau. Mon allure à la cartouche semble lui plaire. Cela me donne des ailes. Ça y est, je tombe amoureux. Juliette, Juliette, accepteras-tu de me suivre dans mes rêves les plus fous ?
Le 9 août 1765, en allant à la messe matinale, une paroissienne découvre le grand crucifix de bois qui orne le pont neuf d'Abbeville, tailladé en plusieurs endroits. Elle est horrifiée. La nouvelle se propage dans toute la ville. L'émotion est grande, d'autant qu'au cimetière, un autre crucifix a été aperçu avec des excréments à ses pieds. Dès le lendemain, le maire, Duval de Soicourt, qui est aussi juge, se rend sur les lieux avec le substitut du procureur du roi et un greffier.
Greffier, veuillez noter. Le samedi 10 août, 11h30 du matin, nous, Nicolas Duval, sieur de Soicourt, ayant fonction de lieutenant criminel de la Sénéchaussée, après avoir été informé par le bruit public que l'on avait mutilé le crucifix du Pont-Neuf, sommes rendus sur place. Nous avons constaté qu'à la jambe droite du Christ, il y avait 3 coupures d'un pouce de long chacune, faites avec un instrument tranchant. Il y avait aussi 2 coupures au-dessus de l'estomac du côté gauche. Nous avons dressé ledit procès verbal, signé, paraphé, etc., etc. Monsieur le substitut, je vous le fais parvenir ce jour, ainsi que celui du cimetière.
Merci, monsieur le maire. Je vais déposer une plainte pour profanation conformément au code de procédure pénale.
Celui qui ose enfoncer le couteau dans la poitrine du Christ est un meurtrier. Il s'agit d'un crime de lèse-majesté divine.
On ne peut pas laisser passer des choses pareilles. La population est sous le choc.
Je ne serais pas étonné que les auteurs de ce sacrilège fassent partie des vauriens qui m'ont cassé des carreaux une nuit de décembre dernier. Je soupçonne les 7 ou 8 mêmes jeunes nobles qui ne pensent qu'à boire et défier l'ordre moral de notre bonne ville. Peut-on vivre ainsi et provoquer un représentant de la justice royale ?
Assurément, non.
Si j'en crois certaines informations, plusieurs jeunes gens de la ville se sont vantés d'avoir commis des impiétés encore plus graves.
Ah ? Lesquels ?
L'un d'eux, m'a-t-on dit, a piqué une hostie qu'il avait gardée après avoir communié pour voir si du sang en sortait. Et ne voyant rien, il l'a jetée à terre, la couverte de crachats, et aurait même uriné dessus.
Quoi ? Des adorateurs du diable ?
Oui. Ces jeunes gens ont le vice en eux. Ils mènent notre monde vers le gouffre.
Ce serait un crime énorme. Je vais l'ajouter dans ma plainte adressée au procureur de Paris.
La rumeur enfle. On raconte qu'une secte antireligieuse se cache en ville. Les événements s'accélèrent. Le 13 août 1765, une information judiciaire est ouverte. Le maire obtient de l'évêque d'Amiens, dont dépendent les 15 paroisses d'Abbeville, qu'il lance des monitoires, véritables survivances de l'Inquisition. Le dimanche, chaque curé exhorte ses fidèles à témoigner en justice s'ils ont connaissance d'un délit. La menace d'aller en enfer si on ne parle pas délie les langues. 77 témoignages sont recueillis. Le 22 août, le procureur général Joly de Fleury recommande, je cite, « d'instruire le procès dans la plus grande rigueur de l'ordonnance ». Le 8 septembre, tous les habitants d'Abbeville se retrouvent pour une cérémonie de réparation mené malgré son grand âge par l'évêque Monseigneur de la Motte en personne. Il faut apaiser le courroux du ciel.
Quel monde ! J'ai peine à voir ce qui se passe. Tous les notables sont là avec le maire en tête du cortège, puis les marchands, les curés, les confréries. Ils s'arrêtent sur le pont. Voilà maintenant notre évêque, pieds nus et corde au cou, qui se prosterne devant le crucifix pour faire amende honorable. Il sanglote, il gémit, demande pardon à Dieu. Et ben, maintenant ils mettent la statue du Christ sur un brancard pour l'amener au cimetière. J'en ai assez vu, je rentre.
Oui, entrez. Ah, monsieur le maire, Je me demandais justement où en était l'instruction. Parmi les témoignages, qu'avons-nous ?
Parmi toutes les déclarations, il a fallu éliminer les récits fantaisistes et les commérages. Sur la dégradation du crucifix, des personnes ont entreaperçu la nuit du 8 août des ombres se diriger vers le pont sans pouvoir les reconnaître. Ah, rien de plus.
Mmh. Et l'hypothèse qu'elle ait été provoquée accidentellement par un chariot chargé et peu manœuvrant ?
Ouais, écarté. L'acte est à coup sûr volontaire.
Parmi les témoins oculaires cette nuit-là, pas d'autres précisions ? Les silhouettes étaient-elles en redingote ?
Certains s'accordent sur leur petite taille.
Ce sont donc des enfants ou des adolescents ?
Plus intéressant. Beaucoup de déposants ont relaté des irrévérences, des discours impies tenus par des jeunes gens d'Abbeville, âgés de 15 à 19 ans. Deux dépositions sont particulièrement instructives.
Ah.
Le seigneur de Belval, en qui j'ai toute confiance, a affirmé avoir entendu de la bouche du sieur Beauvarlais, voisin du chevalier de la Barre, que ce dernier avait voulu lui acheter un petit Christ en plâtre dans le but de le briser.
Le briser ?
Mieux encore, le maître d'armes, Étienne Naturé, a entendu le chevalier de la Barre et ses camarades, Moinel et Gaillard d'Étalonde, se vanter de n'avoir pas ôté leur chapeau ni s'être agenouillés lors de la dernière fête du Saint-Sacrement.
Oh. Même le roi sort de son carrosse et s'agenouille au passage d'une telle procession. Vous êtes sûr de ces déclarations ?
Elles m'ont été confirmées par des témoins directs et faites sous serment. Elles ont valeur de preuve.
Alors je vais déposer une seconde plainte pour blasphème et impiété. Concentrez vos recherches sur ces trois jeunes gens. En particulier le petit protégé de l'abbaye de Villancourt.
Pourquoi il ne nous laisse jamais seuls, toi et moi ?
Tu sais bien.
Viens, Juliette, raccompagne-moi jusqu'à la grille du parc. Rien ni personne ne m'empêchera d'être ton chevalier servant et de danser avec toi. Donne-moi la main.
On peut nous voir.
Donne-moi la main.
Ça ne t'inquiète pas, tout ce qui se passe en ville, François-Jean. D'après mon père, ils interrogent tout le monde pour trouver les coupables.
Vous me posez des questions comme aux autres. Où j'étais la nuit du crucifix ? Qu'est-ce qu'ils peuvent trouver contre moi ?
Tu n'es pas d'ici, pas comme les autres. On ne te voit pas toujours à la messe le dimanche.
Et alors ? J'ai rien fait de mal. J'étais à l'abbaye cette nuit-là. Quand ils ont voulu me coller sur le dos l'histoire des carreaux cassés, ma cousine m'a bien défendu. Juliette, si on partait plutôt tous les deux ?
Tu es fou.
À Paris, tout est possible. Je rentrerai chez les cadets, comme mon frère. Ce sera la belle vie.
Sur la seule base des témoignages, le 26 septembre 1765, le substitut du procureur, Jean-Clément Ecquet, lance un mandat d'arrêt contre les jeunes frondeurs devenus suspects. La nouvelle s'ébruite. Gaillard d'Étalonde, profitant de son réseau familial, s'enfuit en Hollande. Le chevalier de la Barre, lui, se réfugie à l'abbaye de Longvilliers, non loin d'Abbeville. Hélas, le seigneur de Belval l'a fait suivre et le dénonce à nouveau. Le chevalier est arrêté, tout comme le jeune Moinel. Tous deux sont incarcérés et, dès le 2 octobre, soumis à des interrogatoires.
La Barre. Avez-vous mis dans un pot de chambre un livre d'évangile avant de jeter le tout par la fenêtre ?
Non. Mais j'ai peut-être fait des papillotes avec un vieux bréviaire.
Notez, greffier. Avez-vous piétiné une couronne bénite ?
Non, je l'ai poussée du pied tout au plus.
Avez-vous piqué une hostie pour voir si du sang en sortait ?
Non, mais j'admets n'y voir qu'un cercle de pâtes.
Ah. Avez-vous comparé la Vierge à une... putain, et le paradis à un bordel ?
Étant gris, j'ai pu tenir des propos de ce goût-là avec un ami, mais je ne parlais pas de la Sainte Vierge.
Alors de qui ?
De la Madeleine ou de la Saint-Cyr, celle des chansons.
Il vous arrive donc de chanter des airs paillards ?
Quand j'ai trop bu.
Vous en connaissez les paroles ?
On me les a apprises.
Qui ?
Gaillard d'Étalonde.
Reconnaissez-vous avoir mutilé le Christ du Pont-Neuf dans la nuit du 8 au 9 août ?
Non, Cette nuit-là, j'ai rejoint l'abbaye vers 11h, puis j'ai regagné ma chambre pour jouer du violon.
Avez-vous poussé vos selles au pied du crucifix du cimetière Sainte-Catherine quelques jours auparavant ?
Non.
Pourtant, on a retrouvé au pied du crucifix une image sainte souillée comme si on s'était essuyé le derrière avec. Elle porte une inscription qui vous désigne.
C'est impossible. Quelle inscription ?
Vous n'avez pas à le savoir. Venons-en à la procession de la dernière fête Dieu. De nombreux témoins vous ont vu avec vos deux camarades passer sans ôter vos chapeaux ni se mettre à genoux au passage du Saint-Sacrement. Alors que vous étiez à 25 pas.
Nous n'avons croisé que les capucins à l'avant du cortège et nous étions loin, à 50 pas. Si nous ne nous sommes pas décoiffés, c'est qu'il pleuvait ce jour-là et que nous étions pressés de rentrer pour déjeuner à l'abbaye.
Pourtant la rumeur publique vous accuse clairement.
Ma conscience est libre.
Des témoins affirment que vous lisez des livres licencieux.
Non, mais il m'arrive de lire certains philosophes, comme De l'Esprit d'Helvétius.
Consigné, greffier. Consigné.
Interrogé à son tour, le plus jeune des trois suspects, Moinel, fragilisé par sa détention en cachot, charge ses camarades. Il désigne Gaillard des Talondes comme l'auteur de la mutilation. Celui-ci étant en fuite, l'étau de la justice se resserre sur le chevalier de la Barre. Le maire du Val de Soicourt persuade le substitut de joindre les deux procédures, pour mutilation et pour blasphème. Inquiète de la tournure des événements, Anne-Marguerite Feydeau mobilise ses soutiens, dont le président du Parlement de Paris, Antoine d'Ormesson, son cousin. Elle écrit plusieurs lettres au procureur général de Paris. Mais devant l'accumulation des impiétés inscrites au dossier, les réactions à Paris se font prudentes. De son côté, Duval accentue sa pression et ordonne une perquisition à l'abbaye.
Bien, nous en avons fini avec la bibliothèque. Madame Feydeau, pouvons-nous voir à présent la chambre du chevalier de la Barre ?
Certainement, c'est à l'étage. Je vous y conduis. Mais je doute que vous y trouviez des ouvrages réprimandables.
C'est ce que nous verrons. Messieurs, fouillez sous le lit et sous les linges de l'armoire.
Vous voyez, il n'y a rien. Vous perdez votre temps.
Et là, cette tenture dans le recoin, tirez-la. Ah ! Je m'en doutais. Une sorte d'hôtel dissimulé avec des livres. Faites voir. Le sultan Misapouf et la princesse Grismine. La tourière des Carmélites. Tiens, tiens. Et les galanteries de Thérèse. Regardez-moi ça. Des gravures plus immondes les unes que les autres. Avec des moines encore. Quant à celui-ci, le dictionnaire philosophique portatif de Voltaire, c'est un comble. Tout confirme le comportement séditieux du jeune homme.
Monsieur de Soicourt, ce ne sont que des livres.
Ceux-ci sont strictement interdits. Et ce pseudo-dictionnaire est à l'index depuis l'année dernière, vous le savez. Comment pouvez-vous tolérer sous votre toit les éructations nauséabondes de ce Voltaire, cet assassin des âmes ?
Monsieur de Soicourt, n'exagérez pas.
Madame, le chevalier doit répondre de ses actes. Laissez la justice faire son œuvre.
Les semaines suivantes, tous les éléments sont réunis pour un procès. Le dossier compte 6000 pages. Duval de Soicourt peine pourtant à trouver les deux juges assesseurs parmi les personnalités d'Abbeville, celles-ci ne voulant pas s'engager dans un procès qui implique leur fils, ami des accusés. Des témoins se rétractent. Moinel et le seigneur de Belleval, qui s'aperçoit que tout va trop loin, reviennent sur leur déposition. Cependant, la machine judiciaire est lancée. Paris exige de la sévérité. Le substitut du procureur obtient la tenue d'un procès criminel au présidial d'Abbeville. Le chevalier de la Barre comparaît le 28 février 1766. Gaillard des Talondes, lui, est jugé par contumace.
L'audience reprend. Accusé Lefebvre de la Barre, veuillez vous placer sur la sellette. Suite aux derniers interrogatoires et à l'exposé des faits, place au réquisitoire. Monsieur le procureur, c'est à vous.
Regarde-les, tes trois juges.
Merci, Président.
À droite, Duval, le gros Rougeau. Broutel, il opine du chef et ne dit rien de peur de dire une bêtise. Et à gauche, le vieux De Villers, au regard niais, perruque de travers, il sourit tout le temps. Duval a sorti le grand jeu. Le roi, Dieu, la morale, aucune compassion dans sa voix. Ce n'est pas un juge, c'est un inquisiteur. Pareil pour le procureur. Pourquoi se découvrir devant la religion qui passe ? Je ne sens plus mes genoux. Moinel s'en sort bien. Les autres se sont défilés au bon moment. Gaillard a échappé au pire. Il reste qui ? Moi, le dindon de la foire. Ils veulent faire un exemple. Si père était encore là. Non, il n'aurait rien pu faire.
Après le réquisitoire du procureur et une rapide délibération, Duval de Soicourt prend la parole et prononce la sentence.
Tout vu, considéré et diligemment examiné, après avoir ouï le dit Lefèvre de la Barre, nous le déclarons convaincu d'avoir commis les actes sacrilèges et d'avoir proféré les blasphèmes exécrables mentionnés au procès. Pour réparation de quoi ? Le condamnant à subir la question ordinaire et extraordinaire pour révéler ses complices, à être conduit en place publique de la ville, à avoir la langue coupée, puis la tête tranchée, et son corps et sa tête mis au bûcher ardent et les cendres jetées au vent. Ordonnons que le dictionnaire philosophique portatif soit attaché au corps du dit Lefèvre de la Barre et jeté par l'exécuteur de haute justice dans le même bûcher. Garde, emmenez le prisonnier.
Bonjour, Madame Fédot de Brou, désolée de vous déranger.
Entre, Juliette. Tu attends des nouvelles de François-Jean, n'est-ce pas ?
Ah oui, je suis si inquiète. Cela fait 5 mois qu'il est en prison, on me refuse toute visite.
La situation est compliquée, ma fille. Nous avons perdu beaucoup de temps. Trop. Je n'aurais pas dû écouter mon cousin, le président d'Ormesson, qui m'avait conseillé d'attendre. Nous allons faire appel auprès du Parlement de Paris pour François-Jean, comme sa qualité de noble le lui permet.
N'a-t-il pas droit à un avocat ?
Pas toujours dans les affaires criminelles. L'avocat Nicolas Linguet a rédigé un mémoire expliquant les multiples incohérences du dossier. Mais il s'est vu interdire d'assurer sa défense.
Assurez-moi que cette malédiction va s'arrêter, qu'il va s'en sortir.
J'ai bon espoir. Même le nonce du pape à Paris trouve la sentence excessive. Et notre évêque a réclamé la clémence auprès du roi, rappelant que depuis un siècle, le blasphème n'est plus passible de peine de mort.
Et si cela n'aboutit pas, il faut délivrer François-Jean, le faire évader.
Oh, Juliette.
Ses amis peuvent le faire.
Que Dieu vous entende.
Dans le plus grand secret, car on craint une tentative d'évasion, le chevalier de la Barre est transféré avec Moinel à Paris, à la prison de la Conciergerie. Le dictionnaire de Voltaire est du voyage. Duval de Soicourt fait en sorte que les faits reprochés apparaissent comme une menace contre l'ordre établi. Le 4 juin 1766, les magistrats de la Grande Chambre au Parlement de Paris siège sous la présidence du vice-chancelier Maupéou. 36 affaires sont à l'ordre du jour. L'affaire Labarre, la 23e, est traitée en moins d'une demi-heure. Après le réquisitoire du rapporteur Pasquier, ennemi juré des philosophes, 15 juges sur 25 rejettent l'appel. La sentence d'Abbeville est donc confirmée. Loin de là, à Ferney, près de la frontière suisse, Voltaire, 72 ans, se promène dans son jardin en décachetant une lettre.
À la bonne heure, une lettre du baron Grimm, ce vieux complice. Datée du 10 juin, quelle nouvelle ! Un nouveau compte pour la jeunesse ? La condamnation à mort de ce jeune chevalier de 20 ans est confirmée en appel. Le minotaure parlementaire dévore des enfants à présent. Et ils se servent de mon dictionnaire comme élément à charge. Lors de ce procès, Tête de Veau a péroré avec violence contre les philosophes et vous-même fûtes nommé. Tête de Veau, ce surnom sied bien l'avocat général Pasquier, avec ses gros yeux saillants et ses diatribes assassines. Après les tristes affaires, Calas, Sirvaine et Lali. Une injustice de plus à éclaircir. Pourquoi tant de sévérité? Si je n'étais pas pris par le cas de Damien, le temps me manque.
Le 28 juin 1766, le jeune condamné, toujours accompagné du livre de Voltaire, est renvoyé à Abbeville. La voiture pénitentiaire emprunte des chemins détournés et arrive de nuit. Pour ses partisans, une course contre la montre s'engage afin d'obtenir sa grâce ou le sursis de l'exécution. Elle ne viendra pas. Comme Abbeville n'a pas de bourreau, on en fait venir 5 pour préparer l'échafaud et le bûcher. Parmi eux, Charles-Henri Sanson, maître des hautes œuvres de la capitale. Le matin du 1er juillet 1766, le chevalier de la Barre est passé à la question, c'est-à-dire à la torture. Bien qu'affaibli, il tient bon. Ce n'est qu'à 5 heures du soir qu'il est conduit en place publique sous une pluie fine.
Tout cela me paraît tellement irréel, assis dans ce tombereau, mon confesseur à mes côtés. Il a l'air plus abattu que moi. Hier soir, lors de mon dernier repas de condamné, la tête qu'il a faite quand je lui ai dit que le café n'allait pas m'empêcher de dormir. Une seule chose m'importe, Juliette. Je sais qu'elle est là, quelque part dans la foule. Qu'elle me regarde. Pour elle, je resterai droit et fier.
Ma nièce, Madame de Florian, m'écrit d'Ornois près d'Abbeville. Comment ? Mon dictionnaire philosophique attaché au torse de ce jeune supplicié et brûlé sur le bûcher. Mes ennemis croient changer le cours de l'histoire par des autodafés. Si on torture à mort un jeune homme pour avoir lu un livre philosophique, alors qu'on fasse une grande Saint-Barthélemy de tous les philosophes, et qu'on brûle tous les livres, excepté la Gazette ecclésiastique, bien sûr. À travers ce pauvre chevalier, c'est à l'esprit des Lumières qu'on veut arracher la langue. Quelques juges ont dit que la religion avait besoin de ce funeste exemple. Ils se sont bien trompés. Rien ne lui fait plus de tort. On ne subjugue pas ainsi les esprits, on les indigne et on les révolte. Quel est ce pays où l'on commet de sang-froid et en allant dîner des barbaries qui feraient frémir des sauvages ivres?
La cruauté de l'exécution du chevalier de la Barre fait scandale. Voltaire en appelle à l'opinion publique. Dès le 15 juillet 1766, le philosophe publie « Relation de la mort du chevalier de la Barre » sous le pseudonyme de Maître Cassène, avocat du roi, révélant les dessous politiques de l'affaire. L'indignation gagne toute l'Europe éclairée. Le juge Duval de Soicourt est dessaisi. L'avocat Linguet obtient la libération de Moinel et des autres jeunes suspects. Pour autant, Gaillard des Talondes, toujours en exil, demeure sous le coup d'une condamnation à mort. Voltaire lui trouve un poste d'officier dans l'armée de Frédéric II de Prusse. Les années passent, sa situation n'évolue guère. En 1774, le jeune homme sollicite à nouveau Voltaire pour obtenir un recours en grâce. Celui-ci l'accueille dans son domaine de Ferney.
Avez-vous fait bon voyage depuis Potsdam ?
Merci pour tout ce que vous faites pour moi, Monsieur Voltaire. Grâce à vous, j'ai obtenu une longue permission.
Allons, allons. Venez, jeune homme. Installons-nous sous la tonnelle.
Comme je vous l'expliquais dans ma lettre, il se trouve que mon père est venu à décéder. Et bien qu'héritier, je ne peux rien recevoir du fait de ma condamnation.
En effet, cela figure au jugement.
Mon avenir est compromis, sans compter le déshonneur. Et je voudrais rendre justice à mon ami François-Jean, le chevalier de la Barre.
C'est louable de votre part.
Si vous saviez comme je m'en veux, c'est moi qui lui ai appris les chansons impies. Pas un jour où je ne pense à lui.
N'ayez aucun remords, mon jeune ami. Les deux chansons mentionnées au procès sont connues depuis plus de 100 ans et chantées dans toutes les garnisons.
Je n'étais qu'un gamin. Et si mon père ne m'avait pas aidé à fuir...
Mais vous auriez fini comme votre camarade ou votre autre ami.
Moinel ?
Oui. Il est devenu à moitié fou, semble-t-il. Rongé par cette horrible aventure. Il est indigne pour notre justice que quiconque soit condamné sur des rumeurs et des on-dit.
On en paye chèrement les conséquences.
Nous allons traiter l'adversaire avec ses propres armes, comme un contre-jugement.
au nom de l'intérêt général. Tenez, prenons le fait que Duval ait joint les deux plaintes pour profanation et pour blasphème. Le procédé est illégal. L'un relève du pénal, l'autre du civil.
Quand nous parlions de religion, ce n'était qu'entre nous, sans témoins.
Il est facile de subordonner des témoins qui y trouvent quelques vengeances personnelles.
Duval de Soicourt avait maille à partir avec plusieurs parents des accusés.
Voyez, c'est un autre vice de forme.
Il est mort voilà 3 ans sans exprimer le moindre regret.
Le fonctionnement de notre justice reste archaïque.
Le juge Broutel, au procès d'Abbeville, était marchand de bestiaux et n'y connaissait rien à la chose juridique.
Prompt à faire couler le sang, donc. Encore un point pour nous. Vous allez publier un livre qui racontera votre vérité. Notre jeune roi Louis XVI sera sensible à votre histoire.
Je n'ai pas votre don pour les phrases qui font mouche.
Je vous aiderai. Et nous sauverons ainsi la mémoire de votre camarade, victime du fanatisme. Vous resterez ici le temps qu'il faudra. D'ailleurs, j'ai déjà trouvé le titre. Le cri du sang innocent. Qu'en dites-vous ?
En 1766, le chevalier de la Barre, 20 ans, condamné à mort pour blasphème et sacrilège, de Pierre Lorimy, avec le chevalier de la Barre, Maxime Pambet, Gaillard d'Étalonde, Cédric Daniello, Anne-Marguerite Fédot de Brou, Flora Brunier, Juliette du Corroy, Romane Bunk, Pierre-Nicolas Duval de Soicourt, Christian Rizou, Jean-Clément Ecquet, Olivier Balazuc, Voltaire, Daniel Königsberg. Bruitage, Bertrand Amiel et Aurélien Bianco, prise de son, montage et mixage, Éric Boisset et Titouan Oex, assistante à la réalisation, Claire Chéneau, réalisation, Baptiste Guiton. Vous écoutez Autant d'emporte l'histoire sur France Inter. On reprend dans quelques minutes la discussion sur l'affaire du Chevalier de la Barre avec mon invité, l'historien Éric Vinzel, juste après Ascendant Vierge, au milieu. Décrescendo. C'est le
France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire.
Eh bien, Éric Vinzel, on est ébahi par la violence de la condamnation faite au chevalier de la Barre et la disproportion entre le délit, pour autant qu'il soit prouvé, et la peine, évidemment, nous semble sidérante. D'abord, ce chevalier de la Barre, on a l'impression que c'est un jeune homme comme les autres dans ce XVIIIe siècle, un jeune homme qui aime s'amuser, qui aime les chansons paillardes, qui lit Voltaire, qui n'est pas vraiment croyant, sans être non plus anti-catholique. Est-ce qu'on peut dire qu'il est un peu représentatif de cette société qui est en train de se séculariser, la société française du XVIIIe siècle ?
Alors, une sécularisation sans doute un peu lente, qui ne concerne sans doute qu'une partie de sa population. La Barre fait quand même partie des élites, quoi qu'on en dise. La fiction l'a rappelé, hein, il a reçu quand même une bonne éducation, une éducation aristocratique. Oui, il apparaît un peu libertin, comme on disait à l'époque.
Oui, c'est ça, libertin.
Le mot libertin ayant deux sens, hein, un sens plus classique qui est celui d'être un peu athée, et puis libertin, c'est aussi le bon vivant. Effectivement, les deux pouvant évidemment être liés selon les individus. Pour le reste, oui, il fait partie de ce qu'on pourrait appeler cette noblesse moderne, un peu libérale, qui se développe au cours du XVIIIe siècle, et la noblesse n'est pas si une que cela en réalité. Il y a plusieurs noblesses, hein. Il y a des nobles rétrogrades, il y a des nobles au contraire qui sont réformateurs, pas vraiment des révolutionnaires, parce que les Lumières de toute façon ne le sont pas vraiment, c'est plutôt des Lumières réformatrices. Mais oui, la Barre appartient à cette jeunesse dorée à qui un certain modernisme est autorisé en partie, on va dire ça comme ça.
En quoi ce procès diffère-t-il de ceux de l'Inquisition ?
Alors, ça n'a rien à voir, en quelque sorte. Alors là, de ce point de vue-là, Voltaire aime beaucoup comparer la justice royale de son époque avec l'Inquisition, ou la justice inquisitoriale, donc qui est relative à l'Inquisition. Il y a des points communs, parce que au XIIIe siècle, en gros, quand l'Inquisition est apparue, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'Église a beaucoup modernisé la procédure, notamment pour les affaires criminelles, en la rendant beaucoup plus sûre qu'avant. Alors, ça peut vous paraître surprenant, mais c'est ainsi.
L'Inquisition, c'est donc une justice religieuse, alors que là, on est dans une justice du public.
Du roi. On est dans une justice du roi, parce que les crimes religieux, depuis le XVIe siècle, c'est le cas aussi du protestantisme quand il est interdit, ça a été le cas de la sorcellerie au XVIe, XVIIe siècle, depuis la Renaissance, donc depuis le XVIe siècle, se sont devenus ce qu'on appelle des cas royaux. Alors, pour certains, c'est le cas du sacrilège et du blasphème, des crimes de lèse-majesté divine, donc on est dans le haut du panier dans la gravité criminelle, encore à l'époque. Depuis le XVIe siècle, vous êtes susceptible effectivement d'être condamné à mort pour ces crimes-là par la justice du roi. L'Inquisition, c'était les hérésies, hein, donc les déviances et les crimes à caractère strictement religieux. Mais je rappelle que contrairement à une idée reçue, l'Inquisition n'a jamais existé dans le royaume de France. L'Inquisition, c'est un tribunal qui relève directement du pape, donc dans les états pontificaux. Par exemple, ici à Avignon, je dis ici parce que j'habite Avignon, terre pontificale, il y avait un tribunal de l'Inquisition. Dans le royaume de France, il y a eu de temps en temps des inquisiteurs qui intervenaient en France avec l'accord des autorités politiques. Mais depuis les années 1670 en France, il n'y a même plus d'inquisiteurs du tout. Le roi Louis XIV n'en a plus voulu. Vous voyez, donc c'est un peu anachronique de faire une comparaison ou de faire un lien avec l'Inquisition comme le fait Voltaire, parce que l'Inquisition n'a rien à voir dans cette affaire, absolument rien.
Et Voltaire s'en prend à l'Église, c'est un peu son oui, cheval
voilà,
de bataille.
C'est ça, c'est l'infâme, comme il le dit.
Oui, ce qui choque dans cette affaire, plusieurs choses, c'est la manière dont est menée l'enquête, comment la justice a récolté les preuves, les témoignages recueillis ne sont qu'un ramassis de ragots et de rumeurs, et il y a ce système de monitoire, qui a d'ailleurs été beaucoup critiqué par Voltaire, c'est le juge en charge de l'affaire demande aux prêtres d'appeler oui. les fidèles pendant la messe à venir témoigner en les menaçant, sinon d'aller en enfer. Donc c'est quand même une collusion entre le pouvoir de la justice et le religieux. C'est assez sidérant de notre point de vue aujourd'hui. En tout cas.
Alors oui, évidemment, parce qu'on est on est non seulement dans un pays ou une société sécularisée, mais qui est même laïcisée d'un point de vue du système politico-religieux, donc politique. Oui, alors ces monitoires en question, il faut bien expliquer comment ça fonctionne. Donc il y a eu au départ une affaire qui est lancée à la suite de la découverte là, de la dégradation sacrilège du 8 au 9 août 1765. Le juge, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend sur les lieux, il essaye de récolter des premiers témoignages, ne serait-ce que pour avoir une idée plus claire de l'affaire et éventuellement obtenir des témoignages qui seraient précis et concordants. Ce n'est pas le cas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a le droit, c'est dans la procédure depuis 1670, il va lancer un monitoire. Et pour ce faire, il s'adresse à l'autorité religieuse, celle de l'évêque, et l'évêque, par son autorité, transmet au prêtre de paroisse, dans lequel, la paroisse dans laquelle l'affaire a vraisemblablement eu lieu. Et le prêtre, effectivement, pendant trois dimanches consécutifs, admoneste ses paroissiens de venir témoigner sur ce qu'ils savent, sous peine d'être excommuniés.
C'est un appel. Alors, à la délation.
C'est une forme de dénonciation, en tout cas, si vraiment il y a eu crime, c'est une dénonciation. C'est là où Voltaire se trompe un peu, parce qu'en en fait, il charge encore une fois l'autorité religieuse en la personne de l'évêque, mais l'évêque, il n'a pas le choix, et les prêtres non plus. Parce que si jamais il ne le faisait pas, il risquerait une sanction de la part de l'autorité royale, qui pourrait aller jusqu'à la perte de leur poste, de leur bénéfice, comme on dit. Donc, ils ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent pas refuser.
Éric Vinzel, on a entendu qu'il y avait eu une grande émotion en Europe, en France et dans toute l'Europe, suite au châtiment subi par le chevalier de la Barre. Est-ce qu'il y a un avant et un après cette affaire? Est-ce que ça a modifié vraiment la justice? Et il faut quand même rappeler que le chevalier de la Barre ne sera réhabilité que pendant la Révolution française, alors que Calas, par exemple, il a été réhabilité assez rapidement. La Barre, non.
Alors, il n'y a pas vraiment d'avant et d'après par rapport à l'affaire Labarre. Labarre s'inscrit dans une série d'affaires et dans une série d'appels à la réforme par des philosophes, des avocats, voire des magistrats. Et c'est cette suite de requêtes, entre guillemets, qui vont finalement déboucher sur une série de réformes dans les années 1780, où le roi Louis XVI va, par exemple, abolir la torture en France. Voilà. Donc, il y a un contexte qui va jouer, on va dire, deux décennies après l'affaire Calas et après l'affaire Labarre. Mais l'affaire Labarre, en tant que telle, n'a pas été un déclencheur ou un accélérateur de quoi que ce soit. C'est plus, il s'inscrit dans une série d'événements. Et effectivement, Labarre n'est pas réhabilité. Il y a une demande qui est faite en 1775, si mes souvenirs sont bons, mais on est au tout début du règne de Louis XVI. Vous savez que le règne de Louis XVI est un petit peu chaotique au début.
Et donc, surtout à la fin.
Et aussi, surtout à la fin. Donc Louis XVI, roi que l'on présente toujours un petit peu comme un peu faible, etc. À ce moment-là, il a d'autres soucis que l'affaire Labarre. Il est en conflit, notamment, encore une fois, avec les parlements. Donc, il pour asseoir son autorité, il va pas s'insérer dans cette affaire Labarre. Labarre ne sera pas réhabilité du temps de l'Ancien Régime. Et c'est vrai qu'il faudra attendre la Révolution qui, en 1791, va abolir pour la première fois le blasphème avant son retour au début du XIXe siècle.
Merci Éric Vinzel. Donc le blasphème donc disparaîtra avec la Révolution française avant de réapparaître au XIXe siècle et finalement disparaître pour de bon, on espère, à la fin du XIXe siècle en 1881 avec la Troisième République. Mais rappelons qu'aujourd'hui encore, dans beaucoup de pays, le blasphème est considéré toujours comme un crime, parfois passible de la peine de mort. Merci beaucoup Éric Vinzel.
Merci
à lire de vous sur le sujet un article publié en 2017 dans la revue Voltaire. Le lien est sur notre site et à lire bien sûr le texte de Voltaire, l'affaire du chevalier de la Barre, précédée de l'affaire Tally, édité par Folio Gallimard. Et merci à Ici Vaucluse pour la réalisation du duplex. Voilà, c'est la fin de cette émission qui a été réalisée par Anne Weinfeld, assistée de Frédéric Martin, à la technique Romain Le Borgne. Vous pouvez vous abonner au podcast d'Autant n'emporte l'histoire sur l'appli Radio France. Vos commentaires, comme toujours, sont les bienvenus sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook. Dimanche prochain, nous partirons aux États-Unis au 19e siècle sur les pas de Harriet Tubman, une esclave noire qui, au risque de sa vie, s'est évadée vers le Nord pour devenir libre. Mais elle va aussi participer activement au chemin de fer clandestin, un réseau d'évasion d'esclaves et devenir une figure de la lutte contre l'esclavage. Harriet Tubman, héroïne de l'Underground Railroad, c'est dimanche prochain à 21h sur Inter.